Elise, pour ce À la une en Israël, je me tourne vers vous et je vous laisse nous présenter votre invité.
Eh bien, on est ce matin avec Raphaël Jérusalmi, écrivain et ancien officier des renseignements militaires. Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors, cette semaine, Raphaël, on parle de l'Iran sur tous les réseaux, sur tous les secteurs. On passe notre temps à parler de l'Iran. Alors, Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, a reçu hier Tzachi Hanegbi et le ministre israélien des Affaires stratégiques pour discuter de l'Iran. Est-ce qu'il y a le feu aux poudres, si j'ose dire, plus que d'habitude, à votre avis, Raphaël ?
Non, justement, il n'y a pas vraiment le feu aux poudres. Il y a plutôt, justement, des concertations. Il y a quelque chose qui se trame, en douce, plutôt, que le feu aux poudres, mais on ne sait pas quoi. Voilà. On sait d'une part que les Israéliens ont lancé des signaux très clairs à l'égard de l'Iran, comme quoi ils étaient prêts à envisager l'option militaire s'ils voyaient qu'on dépassait une ligne rouge dont ils n'ont pas précisé laquelle elle était. Mais en gros, on est très très proche du nucléaire militaire iranien et donc de la nécessité de frapper avant qu'il ne soit trop tard. D'un autre côté, il y a eu des signaux sur le plan diplomatique entre Israéliens et Américains, comme quoi peut-être malgré tout donner une ultime chance à un accord éventuel sur le nucléaire. Il vaudra ce qu'il vaudra, mais il semblerait que ça serait véritablement la dernière fois qu'on tente le coup avec les Iraniens. Et sinon, effectivement, il n'y a plus d'autre option que l'option militaire.
Alors justement, Raphaël, cette option, cette dernière option diplomatique, on dit que c'est les États-Unis qui essayent de proposer à Israël de se calmer sur cette histoire du nucléaire iranien en échange d'un accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Vous y croyez ?
Je y crois d'une certaine manière. Je pense que l'Arabie saoudite a intérêt pour elle-même, hein, pas pour nos beaux yeux, à effectivement normaliser la relation avec Israël. Les Émirats et Bahreïn qui l'ont fait récemment n'ont rien à regretter sur le plan du tourisme, des échanges économiques et commerciaux, de toute la technologie israélienne qui est maintenant déployée dans les Émirats. Donc l'Arabie saoudite a l'œil là-dessus. Ce qui n'empêche pas, nous sommes au Proche-Orient, rappelons-le, de fricoter aussi avec nos ennemis, à commencer par les Iraniens et les Syriens, donc à jouer sur plusieurs tableaux à la fois. Les Américains, de toute façon, voilà une opportunité, car ils ont quand même perdu pas mal de terrain récemment en Proche-Orient, laissant la place libre aux Russes, mais surtout aux Chinois. Et en fait, il faut contrecarrer maintenant cette avance chinoise, et les Américains mettent le paquet. Surtout parce qu'ils veulent éviter à tout prix d'avoir à mettre des forces militaires en jeu dans cette région du monde très chaotique. Donc ils comptent évidemment sur les Israéliens pour faire le sale boulot, mais d'un autre côté, ils voudraient éviter cela. Donc il y a cette pression américaine, et je pense que le soutien logistique et autres militaires américains contre l'Iran nous sera assuré si Israël a montré qu'elle avait obtempéré, fait le nécessaire comme les Américains le désiraient et qu'en fait ça n'a pas marché. Et donc il n'y a plus le choix et là les Américains ne pourront pas, mais on aurait fait ceci ou cela. On aura tout essayé et l'option militaire, bien sûr, n'est à envisager qu'à ce moment-là, car on sait comment ça commence, une attaque sur les bases nucléaires et sur les rampes de lancement de missiles balistiques iraniens. Et on ne sait pas où ça continue et où ça se termine. Et ça peut être, effectivement, une conflagration régionale avec plusieurs pays qui entrent en guerre, plusieurs fronts qui sont ouverts contre Israël. Et là, évidemment, ça n'entraîne personne.
Alors, Israël, justement, s'insurge contre l'Agence internationale de l'énergie atomique. On ne comprend pas très bien pourquoi, cette semaine, l'AIEA aurait laissé entendre qu'elle allait être plus light avec l'Iran concernant certaines enquêtes sur les violations nucléaires. C'est grave quand même, non, Raphaël ?
C'est grave, mais c'est une tactique parce qu'en fait, Raphaël Grossi et les experts de l'Agence atomique, jusqu'à présent, on leur avait fermé toutes les portes et ils ne pouvaient plus travailler. Donc, ils se montrent courtois, dirais-je, avec les Iraniens, parce que tout d'un coup, on a certains sites, on les a laissés enquêter. Oui, c'est possible, ça, cette possibilité existe, que l'enrichissement à 86% de l'uranium a été fait par tout simplement un arrêt tardif de la centrifuge, des centrifugeuses. Ça arrive qu'on enrichisse l'uranium plus que prévu à cause des centrifugeuses et du processus de refroidissement. C'est horrible aussi d'après l'agence atomique qu'il y ait eu auparavant, avant les Iraniens, des recherches minières et qu'il y ait des traces radioactives de ces recherches minières des années précédentes. Tout cela est possible, mais dans toute façon, il s'agit d'une stratégie pour laisser petit à petit les experts revenir et faire leur travail en Iran, ce qui n'a pas été le cas durant les derniers 2, 3 ans. Donc c'est peut-être une stratégie, mais il est évident que c'est un petit peu ridicule de croire les Iraniens sur parole.
Oui, bien sûr. Alors,
Parce que
c'est peut-être un détail, Raphaël, mais on a appris que cette semaine, la communauté juive de Téhéran avait organisé une cérémonie d'hommage à l'ayatollah Khomeini à la synagogue. Et un spécialiste de l'Iran expliquait que c'est parce que justement les juifs de ce pays doivent obéir et sont soumis à de grosses pressions exercées par le régime iranien. On avait vu il y a peu de temps qu'il souhaitait qu'ils ne fêtent pas la fin de Pessah pour participer à la manifestation de la journée Al-Quds. Est-ce que cette communauté juive d'Iran, qui est petite, vous avez l'impression qu'elle sert aussi de chantage ou de monnaie d'échange avec les mollahs?
Oui, la communauté juive iranienne, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps était une communauté florissante et respectée par le peuple iranien, dont on connaît l'amitié traditionnelle avec le peuple juif, eh bien, depuis plusieurs années, depuis que le régime des ayatollahs s'est durci, surtout avec l'arrivée de Raïssi au pouvoir, la communauté juive vit dans la terreur. Chaque mot de travers peut vous entraîner en prison, mais ça, c'est le lot de n'importe quel Iranien. N'importe quel citoyen iranien qui dira un mot de travers sera emprisonné. Alors, a fortiori, si les Juifs sont soupçonnés de collusion avec l'ennemi sioniste, et donc les Juifs sont obligés, comme ça a été le cas au Moyen-Âge dans beaucoup de pays, de montrer patte blanche, de montrer allégeance au gouvernement, aux ayatollahs, d'autant plus que à la synagogue, eh bien, on parle donc aussi d'une relation interconfessionnelle entre Juifs et musulmans. Et donc il y a cette obligation-là. Et ils sont détenus en otage, on arrive et on est arrivé et on fait ressortir quelques-uns au compte-gouttes, en secret, avec des passeurs professionnels et des agents du Mossad, mais véritablement au compte-gouttes, et on ne peut les faire sortir que s'il ne reste plus aucun membre de la famille. Car si vous faites sortir quelqu'un, mais vous laissez derrière un membre de sa famille, une pression telle sera exercée sur le membre qui reste en Iran, que la personne ne sera obligée pratiquement de revenir. Donc c'est extrêmement compliqué et cette communauté est aujourd'hui, comme je l'ai dit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, n'était pas véritablement menacée. Aujourd'hui, oui, elle est carrément prisonnière, prise en otage et surveillée de très près.
Ma dernière question, Raphaël. On a vu cette semaine des menaces contre les forces américaines en Syrie, toujours de la part de l'Iran, et sans doute que ça faisait aussi partie des discussions entre Jake Sullivan et les Israéliens. Est-ce que l'Iran aujourd'hui a repris tellement de confiance qu'elle est capable d'attaquer les forces américaines?
Oui, car elle n'a non seulement l'appui des Russes qui leur promettent des avions sophistiqués tels que le Sukhoi 22, donc qui leur promettent de renouveler leur flotte aérienne, qui leur promettent un appui scientifique sur le développement d'armements modernes, mais aussi et surtout les Chinois, de nouveau les Chinois qui rentrent dans la danse avec aujourd'hui un axe clair et net, Moscou, Téhéran, Pékin, qui inquiète énormément les Américains et qui évidemment encourage beaucoup les Iraniens, car derrière les Chinois, il y a la Corée du Nord, et donc Corée du Nord, Chine, Russie, ça fait beaucoup de gens qui sont capables de prêter la main au nucléaire iranien, mais aussi à une puissance de frappe et une puissance économique non négligeable qui mettent en danger tout simplement le commerce international, l'acheminement de pétrole et qui aident aussi l'Iran à contourner les sanctions.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmy, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien officier des renseignements militaires. À très vite.
À bientôt.